Alors pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous avez commencé à prendre le train du psaume 23. Alors, qui se rappelle de ce qu'il a été dit dimanche dernier au niveau du premier verset, donc « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » parce que vous avez bien compris que nous allons poursuivre dans ce même psaume et nous aurons certainement au fil des dimanches l'occasion de nous pencher sur le texte, peut-être pas tous les versets parce que sinon ça serait vraiment très long, mais en tout cas j'ai choisi quelques versets dans ce psaume qui m'ont particulièrement parlé à moi et j'espère qu'ils vont vous parler à vous également. Et aujourd'hui on va s'apesantir, si j'ose dire, sur le verset 4. Alors, dimanche dernier, on a vu donc le premier verset. J'aimerais bien qu'on puisse lire, malgré tout, chaque fois qu'on va reprendre ce psaume, le psaume en entier, si vous le voulez bien. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors bon, je ne vais pas répéter que pour moi c'est le psaume le plus beau de l'Ancien Testament, mais en tout cas, chacun peut y trouver un réconfort, un encouragement, et c'est vrai que c'est un psaume magnifique qui a été écrit par David. Alors David, on l'a déjà dit dimanche dernier, mais je le répète, c'est important quand même pour la suite de notre passage, était berger, en tout cas au début de sa vie. Isaïe, son père, avait plusieurs fils, dont lui qui était le plus jeune, et qui faisait paître les troupeaux pour son père. Et donc, quand il a écrit ce psaume 23, évidemment, il n'était plus berger, si j'ose dire, il était roi d'Israël. Et évidemment, le gros avantage que David a eu pour écrire ce psaume, c'est de pouvoir louer son Seigneur et voir son Seigneur du côté du berger. En fait, il avait quelque part des antécédents, si j'ose dire, et il savait traduire ce qui était dans son cœur dans un langage accessible. Et un langage tout particulièrement basé sur la relation entre le berger et ses brebis. Et c'est ce qui fait la beauté de ce psaume, n'est-ce pas ? Hein, ce cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lui qui était berger est devenu la brebis en quelque sorte dans ce psaume et il se place au pied de son Seigneur, de son berger. Mais ça nous apporte évidemment beaucoup d'éclairage quant à ce qu'il est dit dans ce psaume et la façon dont cela est dit. Pour faire une petite rétrospective rapide, bien entendu, on ne peut pas reprendre tout le message qu'on a écouté dimanche dernier, mais nous avons laissé nos amis les brebis endormis, quelque part en sécurité près de leur berger. Et dans ce passage, dans ce premier verset, nous avons regardé le verset du côté du berger et de la brebis, et nous avons déterminé que pour trouver le repos, le vrai repos, une brebis doit avoir quatre incontournables. Elle doit être libérée de toute crainte. Une brebis qui a peur ne pourra pas s'endormir correctement. Elle restera debout, elle est toujours en train de regarder à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas un prédateur ou quelque chose qui pourrait l'agresser. Il faudra qu'elle soit libérée de tout différent avec ses congénères. On a vu ça dimanche dernier également. La brebis ne supporte pas d'avoir des conflits. Et là aussi, ça l'empêche de se reposer. Elle doit être débarrassée des parasites et des insectes. Je suis d'accord avec la brebis cette fois, parce que j'ai horreur de ça aussi. Donc les brebis encore plus, parce qu'elles ne peuvent pas se gratter. Elles n'ont pas de mains comme nous. Hein ? Ça, c'est pratique, hein, quand même. Hein ? Mais la brebis, elle n'a rien à part des sabots, mais qui sont sur le sol. Donc c'est vrai que les parasites et les insectes peuvent devenir très rapidement une source d'irritation. Et évidemment, elle doit être rassasiée. C'est le point central, évidemment, que tout le monde connaît. Une brebis qui ne mange pas, elle tourne en rond. Un homme qui ne mange pas tourne en rond aussi, d'ailleurs, hein, très rapidement. Donc, par plusieurs côtés, on ressemble étrangement à ces brebis. Hein, on a vu que l'image était frappante, notre ressemblance avec les brebis est éclatante. Autant celle du berger avec Dieu est éclatante aussi, mais nous, nous sommes vraiment des brebis. Et des boucs, parce que bon, il y a des hommes aussi. Donc aujourd'hui, on va continuer dans le cheminement de ce psaume et dans le cheminement du berger qui paie ses brebis, du berger qui s'occupe de son troupeau. Et je vous ai dit que nous allions nous arrêter aujourd'hui sur le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Nous avons fait déjà plusieurs applications, bien entendu, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vie de la brebis, mais c'est ce qu'elle représente pour nous, bien entendu. Les questions que nous nous sommes posées et que nous allons nous poser ce matin est centrale par rapport à la vie chrétienne. Alors là, on sait maintenant qu'on a besoin des soins de notre Sauveur pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir se reposer physiquement et spirituellement. Mais, parce qu'il y a toujours des mais dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, et dans la vie chrétienne également. Mais est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu se satisfait de cette situation, en quelque sorte? Nous sommes rassasiés aux pieds de notre Seigneur, de notre Sauveur, nous sommes bien. Nous avons des pâturages en abondance, en quelque sorte. Spirituellement, nous sommes abreuvés tous les dimanches de la parole de Dieu, de la louange. En semaine, nous avons une vie de prière riche, etc., etc., etc. Donc tout va bien. Mais est-ce que le Seigneur se satisfait de cette situation pour chacun d'entre nous? Ou est-ce que le Seigneur veut nous amener un peu plus loin que juste le fait d'être au pied de Jésus et d'attendre la fin des choses? Alors on a une vie chrétienne tout à fait linéaire dans ce cas-là, et je pense, et ce psaume nous montre que le Seigneur ne se satisfait pas d'une vie chrétienne linéaire. Il veut nous amener plus loin, beaucoup plus loin que ce que nous pouvons penser de notre vie. Dieu ne se satisfait pas, non, de cette vie qui en soi est bonne, mais qui n'est pas suffisante pour lui. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Qui dit sanctification, dit effort. Et la vie chrétienne n'est pas faite de villégiature, de soda au bord de la piscine, même si ce n'est pas mauvais en soi. Quand viendra l'été, on prendra certainement de bons moments, mais quelque part, la vie spirituelle va au-delà de cela. Et ce matin, nous allons nous attarder donc sur ce psaume, sur verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors là, le ton, par rapport au verset numéro 1, change. Le verset numéro 1 nous parle d'Éternel qui est mon berger, que je ne manquerai de rien. C'est idyllique. C'est merveilleux, et c'est vrai. Et le verset 4 commence à nous parler à ce moment-là de vallée, d'ombre, de mort. C'est beaucoup moins attractif, je trouve. Et pourtant, vous allez voir que c'est extrêmement important. Ce verset, le verset 4, est souvent assimilé à un encouragement pour ceux qui passent par l'épreuve de la mort, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs proches. C'est en effet un grand encouragement de savoir que Dieu est avec nous dans cette épreuve suprême, mais ce n'est pas le seul enseignement que nous pouvons tirer de ce verset, à mon sens. Donc on va se pencher sur ce que cela signifie pour la
brebis.
Puisque nous allons et nous continuerons jusqu'au bout à regarder ce psaume du côté pastoral, n'est-ce pas ? Alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, déjà, on marche. La brebis, en général, se contente des pâturages qu'on lui propose, mais elle ne va pas chercher plus loin, sauf si on voit de l'herbe verte à côté. Mais là, on est en train de proposer à la brebis de marcher. Et dans le langage pastoral, une brebis qui marche, eh bien, ça s'appelle de la transhumance. Vous avez révisé vos petits manuels de géographie, non ? Ça ne vous rappelle rien, la transhumance ? Peut-être un petit peu, quand même, pour certains. J'espère que vos profs n'ont pas travaillé pour rien. Alors, les bergers ont l'habitude de mener leurs troupeaux vers les pâturages de montagne. Mais quand ? C'est ce qu'on appelle donc la transhumance. C'est souvent un long déplacement où les brebis montent lentement vers les cimes en se nourrissant en chemin. Vers l'automne, les troupeaux redescendront tout aussi lentement dès l'apparition des premières neiges dans les montagnes où elles ont passé l'été. Et pourquoi on parle de transhumance ? Parce que au beau jour, en été, dans la plaine, l'herbe... elle sèche. C'est embêtant parce que les brebis ont besoin d'herbe et ont besoin d'eau. Évidemment, à ce moment-là, il faut leur proposer des pâturages plus verts. Et le seul moyen que les pasteurs et les bergers ont trouvé, c'est d'amener leurs troupeaux un peu plus haut, là où le temps est moins chaud et où l'herbe reste verte et où il y a de l'eau en abondance. Donc pendant cette période de transhumance, le but du berger donc est de conserver à son troupeau assez de nourriture et d'eau pour que chacune de ses brebis puisse rester en bonne santé et puisse se nourrir convenablement. Dans la plaine, évidemment en été, comme je vous l'ai dit, les pâturages vont vite sécher et devenir insuffisants pour nourrir les troupeaux. Et en plus, l'eau indispensable à leur survie va commencer à manquer aussi. Surtout dans ces contrées sèches où l'élevage des moutons est courant. Il y en a peut-être moins dans nos contrées, on aurait peut-être moins besoin de faire de la transhumance en France, mais quand on parle de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, alors là, c'est obligatoire, parce que sinon, en été, les plaines, c'est la toundra. Il n'y a plus rien à manger. Donc il n'y a que dans les montagnes qu'on peut trouver des vers pâturages. Dans le psaume 23, c'est David qui parle. Donc, et on a parlé de David, on sait maintenant que c'est un berger qui avait dû faire d'ailleurs plusieurs fois ses déplacements vers les montagnes avec son troupeau. Il sait donc de quoi il parle. Quand il a écrit ce psaume 23, je suis certain qu'il avait dans son esprit ce qui se passait pendant cette transhumance avec ses troupeaux et il l'a extrapolé certainement au niveau spirituel. Il connaissait par expérience aussi les dangers et les difficultés, mais aussi les joies de ses déplacements vers les montagnes. Alors tout n'est pas idyllique, hein ? Sur la transhumance, vous allez voir. Pendant ce voyage, le berger et les brebis, bien entendu, doivent faire face aux rivières en crue, aux glissements de terrain, certaines fois même, aux tempêtes dans la montagne. C'est très dangereux. Et elles sont très subites. Il doit faire face également aux attaques des prédateurs, qui eux aussi ont besoin de manger. Donc ce n'est pas un voyage d'agrément. Et pendant la montée, les brebis, par contre, vont être soumises aux dangers que nous venons d'énumérer. Mais en passant par ces vallées escarpées, elles vont aussi bénéficier de l'abondance de l'eau qui coule de la montagne. Elles vont pouvoir aussi s'abreuver dans les rivières, les torrents, les lacs, tout au long du voyage. Alors, on parle de brebis, mais bon, Pour nous, le plus important, ce sont les applications que nous pouvons en faire. N'oublions pas la question que nous avons posée au début. Dieu a-t-il réservé pour chaque chrétien un cheminement plus long pour accéder à une intimité encore plus grande avec lui? Comme pour sa brebis, notre divin berger ne veut pas nous laisser végéter dans ses pâturages de la plaine en été. Il désire nous amener vers les hautes cimes où nous trouverons abondance de verts pâturages et d'eau claire et fraîche. C'est beau quand même. Hein, je fais un effort, la gamme. Ça devient... Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avant d'accéder à ces pâturages, nous devons passer par des vallées sombres et escarpées de notre vie. Mais nous faisons cela dans la présence de notre divin berger qui nous conduit. Comme le troupeau est seul avec son berger pendant le voyage et pendant l'été dans la montagne, ainsi le chrétien bénéficie d'une communion intime avec son sauveur pendant ce voyage. Plus intime encore que quand c'est facile, en quelque sorte. D'ailleurs, le passage que nous avons lu le retrace. C'est relevé dans le ton du verset « Quand je marche, tu es avec moi ». C'est vraiment une relation absolument intime entre David et Dieu à ce moment-là. Lui qui a certainement, du temps où il était berger, comme on l'a dit, dû traverser toutes ces épreuves, mais également du temps où il était roi, là aussi, il n'y avait rien de facile pour lui. Vous vous souvenez de tous les problèmes que David avait eu avec Saül, où il a été persécuté en quelque sorte par Saül. Et pourtant, il a écrit ce psaume, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il avait confiance malgré tout en son sauveur. Pour nous, nous désirons souvent aller plus haut avec Dieu, c'est vrai. Enfin, je l'espère en tout cas pour chacun d'entre vous. Nous recherchons la sanctification et nous voulons nous départir de la foule en marchant intimement avec notre Seigneur. Nous envions même ceux qui ont accédé déjà au pâturage d'été et sont entrés dans cette vie plus belle et plus sublime. Mais souvent, hélas, nous nous faisons une fausse idée sur la manière dont tout cela se produit. Nous pensons pouvoir être transportés un petit peu, je vais prendre une image pour ceux qui font du ski, mais du ski hors piste, hein. C'est pas beau, mais c'est une belle image. Vous savez que les skieurs hors piste, ben ceux qui ont des sous en tout cas, ils arrivent dans les stations, ils prennent leur ski, ils louent un hélicoptère et ils se font monter au haut de la montagne pour pouvoir descendre là où personne n'a marché. Ça doit être super magnifique. Mais bon, l'hélicoptère, l'heure d'hélicoptère, c'est un peu cher. Donc bon. Mais en tout cas, nous, dans notre vie chrétienne, on aimerait certaines fois, au lieu de passer par ces vallées escarpées et difficiles d'accès, et long, le chemin est long, nous aimerions bien avoir un petit hélicoptère qui nous amènerait en haut des cimes avec Dieu, mais sans les problèmes. D'accord ? On ne veut pas payer le prix. Parce que le prix est souvent élevé. Il y a de la fatigue, il y a des épreuves, il y a de la peine certaines fois, mais il y a aussi de la joie de pouvoir cheminer avec notre Sauveur. Alors pourquoi passer par ces vallées sombres pour accéder à une communion intime avec Dieu? Est-ce que ça ne pourrait pas être plus facile quand même, certaines fois? Moi, quand je me suis converti, on m'a dit « Ouais, c'est super la vie chrétienne, tu vas voir, tout va bien se passer, j'ai vite déchanté. » Vous aussi, je pense, hein. Dans une certaine mesure, je me suis vite aperçu que si Dieu, évidemment, était avec moi, si Jésus était mon sauveur et s'il m'aidait dans tous les domaines de ma vie, il notait pas pour autant toutes les épreuves de ma vie. Et si j'ai eu des épreuves, vous en avez aussi. Et vous en aurez encore. Je ne veux pas vous décourager, mais quelque part, il faut être lucide. Dieu n'agit pas comme cela. Et nous allons voir pourquoi. Il a choisi ce moyen pour nous transformer progressivement en l'image de son Fils. Qui dit transhumance, dit transformation. Ce C'est beau. Comme Jésus a accepté de naître et de prendre forme humaine et de vivre la vie d'un vrai homme tout en étant Dieu, nous aussi, nous devons accepter de traverser la vie en passant par nos épreuves, puisque chacun a les siennes et elles sont toutes différentes. Moi, j'ai les miennes, vous avez les vôtres. Et certaines fois, elles ne sont pas du tout comparables. Et d'ailleurs, Dieu ne nous demande pas de nous comparer les uns les autres, puisque Dieu a une alchimie particulière pour chacun d'entre nous et il a une recette tout à fait personnalisée pour chacun. Et cette recette de sanctification est différente selon notre personnalité, selon nos attributions, nos dons, etc. Et Dieu va nous placer là où il faut pour que nous puissions grandir en lui. Pourquoi donc passer par ces vallées sombres pour accéder à cette communion intime avec Dieu ? Premièrement, parce que Dieu nous identifie à Jésus-Christ pendant ces voyages, pendant cette transhumance de sanctification. Il nous identifie à Jésus dans ses souffrances. Nous pouvons lire dans Romains 6 ce que Paul en dit. Au verset 5, Paul nous dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Nous sommes identifiés, et c'est important. Quand nous nous convertissons, nous bénéficions de toute la grâce de Jésus, de tout ce qu'il a accompli. Tout ce qu'il a accompli à la croix devient nôtre. Mais Dieu veut nous identifier complètement à son Fils. Notre passage sur terre est une préparation, si j'ose dire. Nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde, mais aussi avoir à l'esprit les choses d'en haut. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre 2, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de passages qui peuvent en parler. 1 Pierre 2, au verset 11, nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Vous voyez que le voyage n'est pas exempt de problèmes, mais il est fructueux pour nous. Dieu disait d'Israël que c'était un peuple au cou raide. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas des problèmes de ce genre ? Vous aussi, nous aussi, nous sommes aussi un peuple au cou raide. Et nous avons beaucoup de mal à suivre le Seigneur. Sans son aide, nous ne pourrions même pas faire 3 pas. Et pourtant, Jésus prend le temps d'être notre berger, de prendre soin de nous, de nous donner des verts pâturages spirituels et de nous faire monter vers les hauts pâturages, là où se trouve l'intimité avec Dieu, avec lui-même. Il prend le temps de le faire. Dieu utilise les vallées sombres de notre vie pour tester notre amour et notre foi pour lui. Parce que sans test, il n'y a pas de foi. Un jour, si ce n'est déjà fait, vous serez testés. Nous serons tous testés, et plusieurs fois certainement dans notre vie. Parce que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne veut pas seulement des chrétiens. Il nous appelle ses amis. C'est quelque chose d'exceptionnel d'être l'ami de Dieu. Mais pour cela, il va nous tester. Il nous dit ça dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, 3 à 5, nous dit « souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Souviens-toi de Jésus, Christ, issu de la postérité de David, c'est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Effectivement, Dieu va utiliser, mais alors jusqu'au bout, ces sombres vallées de notre vie pour nous tester. Un dernier point, ou un avant-dernier point, je dirais, Dieu utilise aussi les épreuves du chemin pour nous rendre capables de consoler ceux qui passent par des épreuves similaires. Combien il est important dans notre vie d'Église de pouvoir se consoler les uns les autres. Mais qui peut mieux consoler quelqu'un d'autre que celui qui est passé par la même épreuve ? Et ces sombres vallées, certaines fois, sont un moyen choisi par Dieu pour que nous soyons une consolation pour les autres. C'est tellement important de pouvoir être une consolation pour quelqu'un dans l'Église. C'est tellement beau et ça reflète tellement cet amour qui doit transparaître dans notre vie communautaire. Et tout cela se fait par notre cheminement. Nous ne pouvons pas rester dans la vallée sans les épreuves, parce que Dieu veut que nous allions plus loin, personnellement et aussi communautairement. Enfin, et ça va être un peu abrupt ce que je vais vous dire, mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela dans la Bible. Dieu ne fait aucun favoritisme. Alors si les non-chrétiens passent par des épreuves, pourquoi nous, chrétiens, devrions-nous ne pas avoir d'épreuves ? Nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, comme nous dit la parole, mais nous existons en tant qu'êtres humains, et les épreuves qui sont données aux autres, elles existent également pour nous. La grande différence entre nous et quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est que nous avons des épreuves, nous. Mais nous avons aussi un Sauveur qui nous aide à les passer. Nous avons un Sauveur qui va nous tendre la main, qui va nous prendre la main pour pouvoir surmonter chaque épreuve de notre vie. Les non-chrétiens n'ont pas ça. Après, vous allez me dire, ah oui, mais il y a beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out, beaucoup de ci, mais c'est normal. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur puisse traverser ces vallées sombres sans l'aide de personne? C'est impossible. C'est voué à l'échec, alors que nous, nous avons notre berger personnel. Chaque brebis ici a son berger personnel qui est Jésus. Et il peut se multiplier à l'extrême pour pouvoir s'occuper de chacun de nous en particulier et d'une manière personnalisée. Voilà. Alors, ce voyage fatigant et périlleux vaut-il la peine d'être entrepris ? Faut calculer la dépense avant de prendre le voyage, parce que certainement, vous allez y laisser des plumes. Les chrétiens, nous les chrétiens, surtout les anciens chrétiens qui commencent à avoir de l'âge, on a des blessures, on a beaucoup de choses. Il faut être... C'est normal, on a traversé la vie chrétienne et on y a laissé des plumes. Mais on a aussi récupéré beaucoup d'autres choses. Nous avons certainement une des plus belles choses que le Seigneur veut que nous ayons, c'est la sanctification, sans laquelle, n'oubliez pas, personne ne verra le Seigneur. Alors, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait, c'est impossible. Il sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits de chair. Mais il nous demande une chose, c'est que nous tendions à la perfection. comme l'apôtre Paul nous le dit. Tendre à la perfection, ce n'est pas l'atteindre, hélas, mais un jour, nous verrons Dieu, nous le verrons face à face. Et à ce moment-là, nous serons parfaits. Et c'est ça qui nous transporte en avant, en quelque sorte. Ne voudrait-il pas mieux, donc, pour ces brebis, nos brebis, nous, rester bien à l'abri de la chaleur dans la bergerie, parce que les bergeries, c'est bien, d'être nourris pendant tout l'été avec du foin? Vous aimez le foin? C'est tout sec. Ça n'a rien à voir avec l'herbe grasse. Bon, après, on n'est pas des herbivores, mais bon. Comment prendre une différence entre un plat préparé dans un supermarché et un bon cassoulet préparé par maman ou papa? Il n'y a pas photo. On doit être attiré par ce qui est bon pour nous. Le foin, c'est pour l'hiver. N'oubliez pas, parce qu'en hiver, il n'y a pâturage ni en haut ni en bas. Donc il vaut mieux le garder pour pouvoir se nourrir. Pour le troupeau, le but du berger est de bien nourrir sa bête, pour qu'elle puisse être en bonne santé et qu'elle puisse produire du bon lait et de la bonne viande. Et c'est pour cela que le berger veut la meilleure nourriture et de l'eau en abondance pour son troupeau. Jésus veut le meilleur pour nous. Alors s'il nous amène sur ces vallées escarpées et difficiles à arpenter, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Jésus jamais ne voudra nous faire du mal. C'est vrai que certaines brebis ou certains bergers ne veulent pas entreprendre ce voyage. Ils ont peur des périls et de la fatigue occasionnée. Mais bon, après, ils n'auront qu'un troupeau maigre et rachitique. Dieu veut pour nous une nourriture riche et abondante, et celle-ci se trouve sur les hauteurs, pas en bas. Mais le seul moyen d'atteindre est d'accepter de se laisser conduire par les sentiers des vallées sombres de la vie, par notre Sauveur et Seigneur. Et il faut du temps. Vous n'allez pas arpenter ces vallées en 10 minutes, ni en 2 jours. Mais ça va vous prendre votre vie entière. Ouais, mais alors c'est un peu long quand même. Hein. Mais oui, mais à chaque pas, c'est des minutes, c'est des heures passées avec le Seigneur. Et Dieu n'utilisera certainement pas un hélicoptère pour vous amener là-haut. D'accord ? Il prendra le temps de cheminer avec vous, afin que vous le connaissiez de mieux en mieux. Il vous aidera à passer par vos moments de doute, par vos difficultés. Il ne vous abandonnera jamais. Il sera votre bouclier, votre rocher, votre haute retraite. Et quand vous serez arrivé dans les hauteurs où l'herbe est verte et l'eau cristalline, non, je ne fais pas de pub, hein. Bon. Vous pourrez dire, comme l'apôtre Paul dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Jésus est parfait. Et ces sentiers difficiles sont faits pour nous faire ressembler à Jésus de plus en plus. Et un jour, nous le verrons face à face. Et nous pourrons le voir parce que nous serons semblables à lui. Et c'est ça qui doit nous mener en avant dans ces vallées escarpées. Alors, nous en sommes déjà à la seconde partie de notre psaume 23. Nous sommes de bonnes brebis qui avons bien dormi, nous sommes rassasiés et nous avons entrepris cette transhumance pour nous amener vers une sanctification et vers une connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Alors, suite au prochain numéro, comme on dit, parce qu'il y a encore beaucoup de versets, et puis on verra, je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou un autre dimanche, peu importe, nous pencherons à nouveau sur ce berger et ses brebis qui ont tellement besoin de cheminer ensemble. Amen.